Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Abdoul Aïwad, c'est une époque, celle de la médiation entre les frères africains, du militantisme en faveur des droits inaliénables du peuple palestinien, du Népad et du développement de l'Afrique, des grands chantiers de Dakar, du tracé des routes et du chemin de fer pour relier les villes africaines, de la lutte pour un environnement plus sain et du projet un peu fou de la Grande Muraille Verte. Abdoul Aïwad, l'octogénaire à l'esprit jeune, libre et indépendant, est l'invité de cette escale que nous avons effectuée à son hôtel new-yorkais lors du débat général de la 66e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il m'a expliqué pourquoi il s'est opposé à l'entêtement du colonel Kadhafi et aux atrocités commises par son régime dès le tout début de la crise libyenne. Il revient également sur la question des mercenaires, des travailleurs africains en Libye et du siège pour la Palestine demandé par Mahmoud Abbas à l'ONU. Monsieur le Président Abdoul Aïwad, merci d'accorder cet entretien à la Radio des Nations Unies. Quel est le message que vous voulez faire passer à l'Assemblée générale des Nations Unies à un moment crucial de notre histoire où le monde, notamment en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, est en plein changement?
Je commencerai par parler de la médiation comme mécanisme prévu par la Charte des Nations Unies, parmi tant d'autres, pour prévenir les conflits et pour résoudre les conflits. Mais j'aborderai les questions les plus importantes, comme par exemple la question de la Palestine et d'Israël, comme par exemple l'environnement. Pour moi, ce sont des questions tout à fait cruciales. Alors, au sujet d'Israël et de la Palestine, en tant que président du Comité des Nations Unies pour les droits inaliénables du peuple palestinien, en tant qu'ami de la Palestine, ce qui est connu de tout le monde, puisque j'ai soutenu la Palestine avant de faire de la politique. Mon point de vue est que nous devons défendre l'établissement d'un État palestinien indépendant derrière des frontières internationalement reconnues et en même temps défendre le principe d'un État israélien indépendant. Donc, nous ne parlons pas de la non-reconnaissance d'Israël. Israël est reconnu même par Mahmoud Abbas, par la Palestine. Mais le problème est que, comment peut-on continuer depuis 40 ans à essayer d'établir des négociations qui ne commencent pas? C'est pas possible. Le sentiment est que Israël cherche à gagner du temps. Mais ça me paraît un peu naïf. Je crois qu'il vaut mieux faire face au problème en posant un certain nombre de principes et quelles que soient les difficultés rencontrées, essayer de les réduire. C'est pourquoi je ne partage pas le point de vue du gouvernement israélien sur cette question-là. Mais madame, je voudrais vous dire une chose, c'est que je suis président de l'OCI et je suis autorisé maintenant à étendre le point de vue qui est le mien, c'est-à-dire la reconnaissance d'un État palestinien par les Nations Unies. J'ai autorisé à le faire dans le cadre de l'OCI. Mais je voudrais ajouter que j'ai eu à intervenir sur le plan personnel. Étant donné mes relations avec Mahmoud Abbas et avec le Hamas, je soutiens les deux, je les ai aidés à retrouver l'unité. Et mon point de vue a été que le soldat Chalit, il fallait le libérer. Je ne veux pas savoir ce qu'il a fait. Mais dès l'instant où un jeune comme ça se trouve en prison, dans un conflit d'État, je pense qu'on peut le libérer pour des raisons humanitaires. Et puis, le gouvernement israélien a déclaré « Je ne veux pas de la médiation du président Abdoul Aïwad parce qu'il est trop proche des Palestiniens. » Alors j'ai dit « Je regrette, je ne fais pas de médiation. » Je suis un lauréat du prix Oufot Boigny de l'UNESCO pour la paix. Donc, quel que soit le point de vue de M. Netanyahou, je dirais même quel que soit le point de vue du Hamas qui détient aujourd'hui ce soldat, moi, mon devoir, c'est d'intervenir pour qu'il soit libre.
Alors, Mahmoud Abbas veut une reconnaissance des deux tiers des États membres de l'Assemblée générale pour son État palestinien, qui sera démarqué selon les frontières de 1967. Absolument. Est-ce que vous allez le faire, hein, au nom
mais
du
Sénat? Nous, bien sûr, nous sommes d'accord. Mais Israël lui-même déclare qu'il est d'accord. Seulement, il ne veut pas discuter là-dessus. Il déclare qu'il est d'accord. Seulement, Israël ne veut pas que cette question soit traitée par les Nations Unies. C'est pourquoi il fait des promesses en disant qu'il est toujours d'accord sur les principes. Moi, son ambassadeur me l'a déclaré. J'ai dit, mais à partir de ce moment-là, il ne devrait pas y avoir de discussion. Mais c'était tout simplement pour paralyser l'action qui est menée aujourd'hui par la Palestine et qui est soutenue par la plupart des pays des Nations Unies.
Si au Conseil de sécurité, les États-Unis opposaient leur veto comme ils ont promis de le faire, quelle sera la portée de cette action symbolique que Mahmoud Abbas aurait prise ?
Oui, c'est-à-dire que la portée est importante parce que jusqu'à présent, on n'avait pas atteint ce degré de sensibilisation du monde sur cette question. Bien entendu, beaucoup de pays supportaient déjà la Palestine, mais je pense que l'initiative de Mahmoud Abbas porte maintenant cette question au cœur même de l'organisation mondiale. Et on ne peut pas différer ça indéfiniment. Je comprends les préoccupations des États-Unis, du gouvernement des États-Unis. Et c'est contingent, nous tous, nous en avons. Mais je pense qu'un jour, les États-Unis seront obligés de ne pas continuer à opposer ce veto, à moins que cela n'entraîne vraiment une division, une fracture, même au sein du Conseil de sécurité. Je sais que le veto d'un pays suffit pour paralyser une question, mais cela va remettre en cause la notion de veto même d'un pays au sein du Conseil de sécurité. Donc, nous ne nous faisons pas d'illusions. La Palestine a une majorité d'États aujourd'hui. Nous savions, avant ce qu'en a dit Obama, c'était annoncé que les États-Unis aller opposer leur veto en disant que ce n'est pas le moment. Mais ce n'est pas le moment, ça veut dire quoi? C'est ce qu'on appelle l'opportunité. Mais opportunité par qui et pour qui? En tout cas, pas pour la Palestine, pas pour nous, mais pour les États-Unis, dans leur politique formulée par leur président. Je respecte son opinion, mais qu'on nous permette, nous aussi, d'avoir une opinion contraire.
Alors, je voulais qu'on parle du printemps arabe, mais surtout de la Libye, puisque c'est le sujet qui intéresse directement l'Afrique. On sait la position de l'Union africaine sur la Libye, qui a différé un peu de la position de la Ligue arabe et de la coalition. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes confortable avec la façon dont les choses ont été gérées en Libye ?
Dès le départ, je me suis mis en rapport avec Kadhafi, on a discuté. Je lui ai conseillé de quitter, parce qu'il lui a rien à faire. Le pouvoir pour toi, c'est terminé. Il ne m'a pas écouté et je suis allé à Benghazi pour dire très clairement que je soutenais le CNT, le Conseil National de Transition. J'ai défendu le même point de vue à l'Union africaine, mais l'Union africaine n'a pas estimé me suivre. Nous étions 4 ou 5 seulement à défendre ce point de vue en disant « Si l'Union africaine demande à Kadhafi de partir, pour elle, ce sera une bonne position pour faire arrêter la guerre, parce que nous ne désespérons pas de pouvoir amener la coalition occidentale à cesser les bombardements. Maintenant, c'est trop tard. Kadhafi a été vaincu. On ne sait pas où il est. Et j'ai profité de l'occasion de la réunion sur la Libye pour m'adresser à lui, encore une fois. Je lui ai dit, Kadhafi, tu vas à ta perte. Il faut que tu reconnaisses, que tu fasses une déclaration pour le cessez-le-feu, que tu demandes à tes partisans de cesser les combats. Je lui ai donc adressé cela en espérant qu'il m'entendra. Maintenant, savoir s'il m'écoutera, ça c'est un autre problème. Donc, Kadhafi, la page va être tournée. Il lui restera à s'expliquer avec la justice internationale. J'ai surtout soutenu la Libye, le Conseil national de transition, parce que le président du Conseil m'a confirmé un certain nombre d'options. D'abord, l'appartenance de la Libye à l'Afrique et à l'Union africaine. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a des pays qui ont du pétrole et qui ne s'intéressent plus, ni à gauche, ni à droite, ni devant ou derrière, qui deviennent des pays pratiquement égoïstes. Donc, le président du CNT a réaffirmé l'option pour la Libye de rester dans l'Union africaine. L'option pour la Libye aussi de respecter l'immigration subsaharienne. Parce que c'est une question qui est quand même importante. Tous les Noirs, les ressortissants de l'Afrique du Sud-Sahara, ne sont pas des mercenaires, ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui sont établis là-bas depuis 20 ans, depuis 30 ans, qui sont des immigrés normaux et qui travaillent. Et puis il y a des Noirs libyens, il ne faut pas tout mélanger. Alors, je lui ai dit qu'il faudra bien faire attention, savoir qui est venu dans les conditions normales, et ces gens doivent être protégés, et faire la différence aussi avec les jeunes qui ont essayé de traverser la Libye pour aller en Europe et qui ont été pris dans le désert parce qu'ils se retrouvaient en territoire libyen, qui ont été engagés dans la Légion islamique malgré eux. Donc ceux-là, il faut les libérer. Ce ne sont pas des mercenaires. Le mercenaire, c'est quoi? Le mercenaire, c'est celui qui prend une arme parce qu'il est payé pour aller faire une guerre qui ne le regarde ni de près ni de loin. C'est ça le mercenaire. Mais vous croyez que ces Noirs-là, ils sont payés par Kadhafi, ils ne les payent même pas. Ils ne les payent même pas, ils leur donnent à manger avec quelques sous, ils ne les payent pas. Donc ce n'est pas tellement la définition du mercenaire. Mais l'Union africaine doit traiter avec ce pays pour savoir qu'est-ce qu'on va faire de ces Africains. Maintenant, moi, Abdoulaye Wade, président du Sénégal, je n'expulserai jamais du Sénégal un Africain. Au moment où je parle, il y a 2 millions de Guinéens qui vivent au Sénégal. Mais aucun Sénégalais, même dans la rue, ne pense l'étranger, l'étranger. Ce n'est pas notre philosophie. Je donne l'exemple des gens qui croient à l'intégration africaine, des gens qui croient qu'un Africain est chez lui partout en Afrique. L'Afrique ne s'en sortira que si on construit un grand ensemble économique et politique dans lequel les Africains peuvent se mouvoir de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud.
On aime beaucoup l'homme de sagesse que vous êtes. Et au niveau de l'Afrique relance, si les Sénégalais vous demandaient en 2012 de partir, est-ce que vous les écouterez? Et s'ils vous demandaient de rester, je sais que vous êtes l'homme des grands chantiers. Je sais que le projet de la grande muraille verte vous intéresse beaucoup. Je sais que l'environnement vous intéresse beaucoup. Je vous connais en homme de grands chantiers, mais aussi qu'est-ce que vous allez faire aux Sénégalais? Voilà.
Si les Sénégalais me demandent de partir à travers des élections libres et démocratiques, mais je pars. Je ne ferai aucun problème. Et je vais féliciter mon successeur.
Pourquoi vous voulez rester?
Parce que c'est les Sénégalais qui me demandent de rester. Et aujourd'hui, je m'adresse aux Sénégalais. Je dis aux Sénégalais, vous êtes libres de me reconduire ou de me demander de partir et je partirai. Mais quel Sénégalais? C'est pas trois ou quatre individus qui sont perdus dans la politique, qui n'ont jamais rien réussi dans leur vie, qui vont amener les gens pour me demander de partir. Je ne partirai pas dans ces conditions-là. Parce que pour moi, ces gens-là, ils n'existent pas. Vous comprenez? Ils n'existent pas. J'ai d'autres préoccupations aujourd'hui, c'est de remplir avec les Sénégalais le mandat qui m'a été confié. Je poursuivrai la réalisation de ces grands projets. La grande muraille verte que nous avons déjà entamée, nous allons avancer. Le programme mondial de l'environnement nous a accordé, nous les pays de Dakar à Djibouti, 117 millions de dollars qui ne sont pas encore arrivés parce que les mécanismes sont trop compliqués. Mais tel que je connais les mécanismes de déboursement de l'argent dans le système des Nations Unies, ça viendra peut-être avec mon successeur et tant mieux. Mais en attendant, moi je plante des arbres. À la veille de chaque hivernage, nous avons fait des pépinières, nous avons les jeunes, nous avons les femmes qui se sont appropriées de cette affaire-là et qui plantent les arbres. Donc, nous réaliserons cette grande muraille verte. Et puis, d'autres problèmes de l'environnement particulièrement importants, comme par exemple l'érosion côtière. Vous savez que les côtes d'Afrique sont menacées de Casablanca jusque dans le Golfe parce que l'eau salée rentre dans le plateau continental et va saliniser les nappes d'eau potable des populations. C'est la destruction de l'Afrique qui est en cours aujourd'hui par les problèmes de l'environnement. Ça, ce sont les problèmes vraiment sérieux. Or, il y a des solutions à ça. J'en ai appelé donc à la coopération internationale. J'ai fait 2 kilomètres de mur, qu'on appelle chez nous le mur de l'Atlantique, avec 40 cm de large en béton armé, qui repose sur le plateau granitique, de sorte que l'eau n'a plus la possibilité de passer. Nous avons demandé à l'Union européenne de mettre en place avec nous une équipe d'experts européens et africains pour étudier ce problème-là et voir les moyens de le régler. Il y a évidemment d'autres problèmes, mais ça sont les plus importants.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir accordé cet entretien à la Radio des Nations Unies et merci de votre élégance à laquelle nous sommes toujours habitués. Merci beaucoup, Monsieur.
Merci infiniment.
Abdoulaye Wade, le président du Sénégal, a accordé cet entretien exclusif à la radio de l'ONU lors du débat général de la 66e Assemblée générale des Nations Unies. Merci à Florence Westgarde et à Frédéric Chouanière à la réalisation. Bonne semaine à tous et à toutes et à très bientôt pour une nouvelle escale.